Le magazine du Monde présente Le goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût? Qui a bon goût? Mauvais goût? Et puis d'abord, comment se forme le goût? 21e épisode, le goût de M s'invite chez Woodkid, Johan Lemoine de son vrai nom. On l'a d'abord connu en tant que réalisateur à la fin des années 2000, des clips aux images très léchées pour Lana Del Rey, Yel, Katy Perry, avant de le découvrir chanteur, compositeur et interprète. En 2011, Woodkid sort Iron, un single très remarqué, suivi en 2013 d'un premier album, The Golden Age. Woodkid imprime alors un style, une pop épique et symphonique, largement inspirée par les musiques de films, et une voix, grave et vibrante, avec laquelle il interroge l'enfance et les codes de la masculinité. Il revient aujourd'hui, 7 ans plus tard, avec S16, un nouvel album. On retrouve les contrebasses, les percussions, la couleur Woodkid, et on plonge dans des textes qui changent d'échelle et questionnent cette fois un monde contemporain au bord du collapse. On en écoute un extrait, ça s'appelle « In Your Likeness ».
I know I'm not made in your likeness. You're not made for my darkness.
On le sait esthète, proche de Nicolas Ghesquière, avec qui il collabore chez Louis Vuitton, sensible, gourmet. Et pour en savoir un peu plus sur le goût Woodkid, on a rendez-vous chez lui dans le 18e arrondissement de Paris, dans le quartier populaire de Max Dormois.
C'est pour aimer le monde.
On s'avance jusqu'au fond de la cour, on marque un temps d'arrêt devant un immeuble aux larges fenêtres, peut-être celle d'un ancien atelier. On monte au deuxième, on sonne.
Bonjour.
Salut, ça va? Entrez, ouais. J'ai la porte qui grince. Bienvenue chez moi.
Alors Woodkid, on est chez vous là.
Ouais.
Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici?
Bah oui, c'est un espace que j'ai un peu... que j'ai conçu quoi. Que j'ai, avec le temps, qui est devenu... qui s'est adapté à ma manière de vivre. C'est un grand espace. J'ai un peu tout décloisonné. Quand je suis arrivé, j'ai cassé tous les murs.
Donc y a pas de cloisons, ou alors elles sont amovibles?
Ouais, voilà, je peux fermer les cloisons, je peux fermer les pièces si je veux. Il y a un côté un peu open space. C'est un vrai appart de célibataire. Ou en tout cas, c'est pas un appart familial, quoi. Ça, j'en ai conscience. C'est un grand espace avec du parquet. Et puis tout est un peu posé comme ça. J'ai tout organisé autour de la cuisine. Avec mon architecte, Régis, on a fait une grande cuisine. Et en fait, il y a une espèce de chemin qui est un peu le chemin que j'imaginais faire avec mes amis. C'est un appart qui est fait pour les amis. Les amis arrivent, on est dans la cuisine. Je finis de cuisiner, juste à côté, on a une grande table. On se met à la table, ouais. On peut se mettre à 12, on fait des grands dîners comme ça. Après, on passe au salon qui est juste à côté. Bon, tout ça est dans le même espace, en fait. Hein. On est presque dans Dogville. Il y a des petits espaces définis comme ça. Et après, ça, c'est une pièce récente, c'était une chambre avant. Et finalement, c'est devenu un espèce de salon à... un salon subsidiaire pour mes amis alcooliques et fumeurs, pour qu'on puisse se faire des petits cocktails.
Comme il était un peu tôt pour investir le bar à cocktails, on s'est rabattu sur la grande table, tout près de la cuisine, on s'est installé et je lui ai demandé de me raconter le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
Ah, c'est très difficile ça, parce que j'essaye de pas... J'ai beaucoup de respect pour le goût de mes parents. Je pense qu'il a vraiment éduqué mon œil. J'ai grandi à partir de ça. C'est la graine qui a fait grandir tout ça. Mais j'ai évidemment évolué depuis. Donc je ne reviendrai pas à ce goût-là.
Et ce goût-là, vous, il serait comment?
Le mot qui me vient, c'est un truc très middle class. C'est vraiment quelque chose d'assez... quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect parce que je n'ai pas l'impression d'avoir pas eu les chances culturelles... éthique, visuelle, j'ai pas l'impression qu'on m'ait mis à aucun moment des bâtons dans les roues au niveau de la formation de mon goût, parce que mes parents ont jamais dit non à ce que je fasse des études d'art, tout ça. Et en même temps, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup à faire pour aussi grandir et évoluer et définir ma propre identité.
Vous avez grandi près de Lyon, c'était un petit village qui s'appelait Tassin, la demi-lune.
Alors,
c'est ça?
Non, je suis né à Tassin.
Vous êtes né à Tassin?
Je suis né à Tassin, mais j'ai grandi très peu de temps à Tassin. Mais après, j'ai passé surtout une grande partie de ma jeunesse dans le Beaujolais, à côté de Villefranche.
pommier en Beaujolais. On était à 15 minutes, 20 minutes de Villefranche, donc on faisait l'aller-retour tous les jours. Et autour de moi, c'était ouais les vignes. C'était vraiment au milieu des vignes, tout petit village de campagne, petite église avec son petit clocher, les tracteurs, voilà, les petites routes départementales.
C'était une maison, du coup, dans laquelle
c'était
vous avez
grandi ? C'était une maison, c'était une résidence, ouais. C'était une résidence, il y avait plusieurs personnes qui habitaient, et nous, on était dans un des lots. C'était beau, il y avait un peu de vue, on voyait un peu la vallée.
Et à l'intérieur, vous me le décririez comment ?
C'était très saumon et vert anglais. C'était le truc des années 90, je crois. C'était le truc de mes parents à cette époque-là. C'était saumonné, pour être exact. Saumonné, vert anglais. Je me rappelle, et il y a un truc qui m'avait fasciné, parce que je crois que l'endroit était un ancien pensionnat de jeunes filles, si je me rappelle bien. Et il y avait un vieux carrelage très beau, en terre cuite, au sol. C'est très joli.
Alors, votre père, il travaillait dans la pub ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faisait ? Il concevait des campagnes ?
Ouais, il concevait des campagnes. C'était une petite agence lyonnaise. Voilà, et puis ma maman a travaillé avec lui pendant longtemps, puis après, elle était mère au foyer. Donc oui, j'ai un peu grandi là-dedans, ouais.
Et votre père, justement, on imagine, du coup, il avait une culture visuelle. C'était quoi,
oui,
ses goûts, à lui ?
C'est vraiment les goûts de la publicité des années 90. Je sais qu'avec mon père, il y avait un truc qu'on adorait faire, c'était regarder Culture Pub tard le soir. Disons que j'ai grandi aussi dans cette idée de la publicité quand elle était encore un espèce de référent artistique d'une époque.
Ouais, il y a eu beaucoup d'inventivité.
Oui. Moi, j'ai grandi avec Vanessa Paradis dans une cage pour Chanel. J'ai grandi avec la pub d'Egoïste. J'ai grandi avec les grandes campagnes anglo-saxonnes qui me faisaient aussi un peu rêver à l'époque parce qu'il y avait rien de vraiment négatif d'attaché à ça. Il y avait encore beaucoup d'utopie là-dedans. Oui, ça a certainement formé aussi un peu mon œil.
Et votre mère, vous disiez à un moment, elle a travaillé avec votre père dans son agence de pub. Et puis ensuite, elle est restée à la maison s'occuper de vous. C'était quoi ses goûts à elle ? Qu'est-ce qui l'intéressait ?
Ma maman, elle aime toujours la musique. On écoutait Barbara à la maison. Elle s'était pris l'amour pour un disque que j'adore toujours, qui était une performance du Stabat Mater par Bowman. C'est pas comme si on écoutait énormément de musique classique, mais à un moment, il y a eu des disques qui ont été des disques qui étaient importants, qui étaient joués, rejoués. Je sais qu'elle l'a eu en vinyle au début, puis après, elle l'a racheté en CD. Du coup, je crois que je connais par cœur le Stabat Mater, et spécialement cette chanson-là, enfin cette version-là, chantée par Bowman. Ce qui est magnifique avec la musique, c'est que c'est dictatorial presque. On la met dans un espace et tout le monde doit l'entendre.
Votre mère, elle est polonaise ?
Ouais.
L'été, vous partiez, il y avait aussi ça. Dans votre enfance, il y avait cet autre territoire qui était la Pologne. Vous y
ouais,
allez
du
l'été.
Côté de ma mère, la famille ouais. de ma mère. Et j'ai souvenir d'un voyage en Pologne en été, où on est allé partir en voiture, on a traversé Berlin.
Donc c'était après la chute du mur ?
Oui, ça devait être, ce voyage-là, ça devait être en 90, peut-être. En 90,
ouais, ouais, tout juste.
De toute façon, la chute du mur de Berlin, c'est quelque chose qui est présent dans ma famille. C'est un événement qui a marqué. Le rapport à la famille est très particulier chez moi. Du côté de mes familles françaises, ça a toujours été relativement administratif, on va dire. Mais du côté de ma mère, bien qu'on ne les voit pas beaucoup, à chaque fois que venait en France ou que nous, quand on est allé en Pologne, etc., c'était des effusions de larmes, de drama, qui pour moi était un truc assez alien quand je regardais ça de mes yeux d'enfant, parce que c'était pas une famille que je voyais non plus si souvent que ça, et j'avais du mal à comprendre comment des gens pouvaient me porter autant d'amour alors qu'ils ne me connaissaient pas.
Et que ça provoquait des émotions aussi fortes.
Et oui, quand on est gamin, il y a un truc particulier, c'est quand nos parents pleurent, enfin toujours d'ailleurs, hein, si mes parents pleuraient devant moi, je pleurerais, mais on pleure. C'est-à-dire qu'il y a un mimétisme d'émotions. Donc voilà, c'était devenu presque une autre manière de se faire la bise, c'est qu'on savait que quand il y avait les retrouvailles avec la famille polonaise, il fallait pleurer à chaudes larmes.
Donc c'est un aspect assez émotionnel comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Et la Pologne, en dehors de ça, est-ce que ça a été un autre imaginaire pour vous ? Est-ce que
ça a été un imaginaire, parce que c'est des images qui m'ont choqué quand j'étais gamin, enfin qui m'ont choqué dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est de l'exotisme, ça fait partie de mes premiers voyages, donc forcément ça reste un exotisme, un territoire inconnu pour moi. C'est aussi la vision que j'en ai à travers les yeux de mes parents. C'est-à-dire mes parents qui ont été beaucoup, je crois, choqués et interpellés par les problèmes d'alcoolisme qui pouvait y avoir de ce côté de la famille ou des gens qui étaient autour de nous. Et quand j'étais gamin, je ne sais pas si c'était proéminent comme sujet dans nos voyages, dans ce voyage-là en particulier, mais c'est un souvenir dont je me rappelle. Je me rappelle que c'était un sujet. Il y avait un sujet autour de l'alcool, autour d'une certaine forme de violence sociale aussi, parce que ma mère me racontait des histoires d'oncles qui se battaient au couteau. Elle racontait des histoires comme ça, qui sont en fait des choses que j'ai pas vécues directement, qui indirectement sont des choses que j'ai rattachées à l'idée de la Pologne, que j'ai déconstruit par la suite. J'ai exploré quel était le passé juif de ma famille aussi, qui était un truc qui a été caché pendant longtemps, après la Seconde Guerre, tout ça. On est passé de ski en yak. Je crois que
Il y a eu un changement de nom.
Il y a eu un changement de nom, etc. Okay. C'est un sujet que ma grand-mère a jamais voulu aborder de manière frontale. Elle est décédée maintenant. Et en fait, je sais que ma maman a toujours essayé de comprendre ça. Et qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se recoupent du surnom de ma grand-mère, celui de mon arrière-grand-mère, de l'origine de nom de famille, etc. Enfin, tout est évident. Et ça a toujours été une question assez taboue dans ma famille.
Vous disiez que vous aviez grandi dans un environnement middle class. Qu'est-ce que vous faisiez en famille? Est-ce que vous regardiez le cinéma était présent? Il y avait la télé? Enfin, c'était quoi la culture familiale?
Ah ouais. Il y a un souvenir d'enfance qui est génial pour moi. J'ai repensé l'autre jour. On allait au vidéoclub. Ça, c'est un truc qui est très... C'est des super souvenirs d'enfance. En fait, c'est un peu les prémices d'Internet. C'est-à-dire, on va dans un endroit et on a accès à tout.
On choisit.
Et en fait, le choix est incroyable. Mais c'est un choix qui se fait en famille. C'est un choix collectif. Donc,
Vous choisissiez des films que vous alliez regarder ensemble.
Ouais. Et je me souviens, on prenait les cassettes. Alors, moi, j'avais cette fascination que la boîte était vide quand on les prenait.
Ouais, c'est vrai.
Et que le mec mettait la cassette dedans. Et j'ai le souvenir de certains films, ouais. Je me souviens qu'on avait pris Splash à une époque.
Daryl Hannah.
Ouais.
En sirène.
Ouais. Et il y en a un qui à un moment était dingue, c'est que mon père avait pris 2001 d'Odyssée de l'espace pour lui, pour le regarder un après-midi, et j'ai regardé avec lui. Et ça m'avait choqué.
Pourquoi?
Parce que je trouvais ça fou. Je trouvais que c'était pas comme les autres films, il y avait un truc différent. Donc c'était fascinant, en soi.
Dans votre famille, est-ce qu'il y avait un plaisir de manger?
Ah oui, et par ma grand-mère surtout. Après, on n'est pas une famille d'experts ou de tout ça. Ma maman cuisinait bien, tout ça, mais quand j'étais gamin, il y a des plats, il y a des choses qui sont mémorables. Parce qu'il y a aussi un truc avec ma grand-mère, c'est que comme toutes les grand-mères à l'époque, je pense, elles prenaient le temps de cuisiner. Et qu'en fait, quand on mangeait un truc, c'était un plat qui avait mijoté pendant des heures sur le poêle, en fait. C'était la fonte, c'était le... Je peux pas m'empêcher qu'il y avait une valeur particulière à ça. Elle faisait un espèce de riz aux poireaux, qui est un truc tout bête, hein, mais qui est juste un riz qui est surcuit pendant des heures et des heures avec les poireaux et le comté sur le poêle directement. Tout la casserole accroche, en fait. Parce que ça cuit tellement doucement et tellement longtemps qu'en fait, mais ça brûle pas, ça devient... Et ça, c'est un truc en termes de goût qui était fou, fou.
M.
Le goût de M.
Là, on est un peu au milieu du salon. Et là, donc, ça devient un peu la chambre. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de mur, donc tout est un peu flou. Il y a mon lit qui n'est pas fait, évidemment. Parce que je suis un mauvais host. Je ne sais pas faire mon lit avant que les gens arrivent. Et puis là, il y a mon piano. Mon piano qui me sert de... qui est mon compagnon, quoi. J'en fais un peu tous les matins. Ça me permet de faire ma voix aussi. Tous les matins, une heure, en me réveillant. Ce truc qui est particulier de ma voix, qui est cette espèce de yodel, entre un yodel et un vibrato, c'est un truc que j'ai trouvé très vite. Je me suis rendu compte que j'avais cette capacité vocale qui était bizarre et singulière. J'ai capitalisé un peu trop dessus au début, mais maintenant j'apprends à le doser de manière plus fine.
Et alors vos goûts à vous, sont cristallisés sur quoi? Ça a été quoi qui vous a intéressé? Vous dites souvent dans les interviews, j'ai toujours été curieux des yeux. Est-ce que ça a été ça?
Ouais, de la lumière. C'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Il y a une scène dans Tree of Life qui est marrant parce que j'ai vu un truc de mon enfance.
Le film de Terrence Malick.
Il y a une scène où le bébé voit sur le mur la réflexion du soleil sur une bassine d'eau qui est... au sol, qui crée cette espèce de forme solaire, organique, presque extraterrestre au mieux. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné quand j'étais gamin. Les reflets du soleil sur l'eau, spécialement dans des espaces clos. Il y avait quelque chose de très vivant là-dedans, qui avait quelque chose d'un espèce de langage parallèle par rapport à la dureté, la directionnalité du soleil, que d'un coup, quand elle rencontrait l'eau, ça devenait quelque chose de vivant, quelque chose qui communiquait. Il y avait presque un langage là-dedans. Et en fait, je pense que mon œil a toujours été très curieux de ça parce que je crois que j'ai très vite eu une perception du monde assez scientifique. Très vite, j'ai voulu comprendre pourquoi, si je suis habillé en rouge dans une pièce close et que le soleil tape mon t-shirt, pourquoi toute la pièce devient rouge ? Pourquoi est-ce que mon ombre portée, elle est nette quand c'est le soleil et elle est floue quand c'est indirect et que c'est juste à travers le ciel ? Pourquoi le cadran solaire ? Et en fait, mon œil, il se passe à travers l'envie constante d'expliquer les choses, d'essayer de tout comprendre pour que rien ne m'échappe, en fait.
Il y avait cette envie comme ça d'expliquer les choses, de comprendre les choses très fortement. Qu'est-ce qui vous a intéressé d'abord ? Est-ce que c'était... Vous dessiniez beaucoup ?
Ouais.
Est-ce que c'était le cinéma ? Ça a été quoi en premier dans votre vie ?
C'était le dessin. C'était les arts plastiques. J'avais la musique aussi, hein, déjà. Hein, je faisais du piano, etc.
Parce que vous avez fait le conservatoire.
Oui, enfin, j'ai fait un petit peu de conservatoire. Je faisais de la flûte avec. Et après, ça m'a pas plu. Donc, je suis passé sur des cours personnels avec un prof de piano. Un peu plus tard aussi, et que j'ai arrêté, puis que j'ai repris. C'était toujours été une relation d'amour-haine, la musique. En fait, j'aimais la musique, mais j'aimais pas le solfège. Ça a toujours été mon grand problème. J'en paye le prix aussi aujourd'hui.
Le rapport au dessin, il était plus simple que celui de la musique. Il était plus...
Disons qu'il ne demandait, il demandait moins de technique. Moi, j'ai toujours été un peu un filou. J'ai toujours contourné un peu les règles académiques pour faire les choses d'une manière plus simple.
Et vous dessiniez quoi au départ, enfant ? Vous dessiniez tout ce qu'il y avait autour de vous ? Enfin, c'était...
Je faisais pas mal de nature morte. Je dessinais des pommes. Je dessinais des vases. En fait, j'avais compris un truc, c'est que... Là, je regarde un vase qui est en face de moi, c'est que la lumière tourne dans un sens à l'extérieur et dans l'autre sens à l'intérieur. C'est le cas sur une pomme aussi. Au niveau de la tige de la pomme, la lumière tourne dans l'autre sens. Ça, c'est les débuts de mon œil de dessinateur.
Donc, pendant votre adolescence, c'est assez riche. Il y a cet intérêt depuis l'enfance pour la lumière, puis le dessin,
ouais.
Et puis il y a la musique aussi. Et puis il y a une autre chose qui est aussi, je pense, très importante dans la formation de votre goût, c'est la machine, c'est l'ordinateur en fait.
Ouais.
Votre père avait un ordinateur, il y avait Photoshop chez vous, vous jouiez beaucoup avec ce logiciel, ça va très bien avec l'approche scientifique que vous racontez d'ailleurs des choses. Et vous avez eu un ordinateur aussi assez tôt, vers 11 ou 12 ans, je crois, un Mac. Est-ce que ça a été un outil qui a été... très important en tant que moyen qui donne accès, mais également même en tant qu'outil qui façonne l'accès aux choses, en fait.
Quand j'ai eu cet ordinateur-là, j'étais encore moins le cool kid parce que c'était un Mac, comme vous l'avez dit. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, avoir un Mac, ça voulait dire qu'on n'était pas gamer, on jouait pas. Il n'y avait pas de jeu sur Mac.
Ah oui, c'était culture jeu vidéo, déjà.
C'était la culture jeu vidéo. Et les autres garçons, il y en avait quelques-uns, je dis garçons parce qu'en l'occurrence, c'était des garçons, qui avaient... des ordinateurs, c'était les PC. Et eux, ils étaient déjà dans les trucs de jeux de castagne. Si j'avais eu un PC, peut-être que ma vie serait pas la même aujourd'hui. Et il y avait, donc Photoshop. Et en fait, je crois que ça, par défaut, je me suis dit, c'est cool, en fait, je peux faire des images. Au lieu de faire des jeux vidéo, je me suis mis à programmer. Et en fait, sans le savoir, je prenais de l'avance sur toute ma génération, qui en fait était, elle, plutôt axée sur la fascination du jeu.
Mais il y a une chose, il me semble, qui vous a beaucoup intéressé dans les jeux vidéo. Enfin, d'ailleurs, vous avez dit que vous aviez quand même des posters de jeux vidéo dans votre chambre, donc c'était quand même une culture qui était importante. C'est la musique des jeux vidéo.
Si je dis pas de bêtises, j'ai 13, 14, 15 ans. Là, la musique rentre vraiment en compte dans les jeux, et en particulier dans une série qui est la série des Final Fantasy, qui est un truc qui bouleverse mon enfance. Parce que c'est aussi l'ère où... Final Fantasy VII, l'ère où je découvre vraiment ma sexualité, où je sais qu'en fait, il y a un truc qui va poser un petit problème à un moment. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai chez moi ? J'ai Final Fantasy VII, qui est le premier jeu auquel je joue seul. Où, en fait, je transfère toute une partie de ma frustration dans cet échappatoire, dans cet imaginaire, où il y a un homoérotisme fou aussi dans ces jeux-là. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a en fait deux, trois garçons qui ne sont certainement pas gays, mais qui jouent aussi à Final Fantasy VII, et que ça me rapproche de garçons à ce moment-là, parce que j'utilise dans l'espace conversationnel que ça crée comme un moyen de parler aux garçons. Et après, il y a eu Internet qui était juste pour moi, à ce moment-là, je le vois comme la continuité de ça, sauf qu'il y a une immédiateté. Et à ce moment-là, ça n'est qu'utopie. Internet n'est qu'utopie, n'est que positif, n'est que lumière, et je me jette à corps perdu dedans, parce que je me rends compte que c'est en fait ce qui va me permettre... C'est ce qui va déclencher, une forme d'ouverture et qui va déclencher mon transfuge social. Parce que je me rends compte que je vais pouvoir rencontrer des garçons grâce à Internet, que je vais pouvoir construire une sexualité qui était réprimée, que je vais pouvoir apprendre beaucoup de choses. Et ce que je veux, surtout. Que d'un coup, je peux faire un choix très sélectif sur ce que je vais apprendre. Que je suis maître de mon éducation.
Vous faites des études d'art graphique, et ça vous amène à Lyon. Donc Lyon, c'est la grande ville à côté de chez vous. Est-ce que ça, c'est un choc? Est-ce que c'est la découverte de nouveaux codes?
C'est la découverte des possibles. Parce que là, c'est la découverte des clubs gays, c'est la découverte des saunas, c'est la découverte de ma sexualité, c'est la découverte du choix de ses amis, qui n'est pas un choix qui est défini par l'école. Donc ça, c'est assez nouveau pour moi. J'ai une chance folle de faire ces études-là parce que c'est des moments d'apprentissage, mais c'est dans un cadre artistique, donc il y a quand même une frivolité autour de tout ça, qui est une époque, si je la revivais aujourd'hui, je pense que j'irais encore plus loin. J'irais encore plus loin dans la soif d'apprendre, je dévorerais tout, je travaillerais encore plus et en même temps, je ferais encore plus n'importe quoi, je crois. Parce que c'est vraiment 4 ans de ma vie de transformation complète. C'est-à-dire que je passe d'un gamin en Quechua qui s'excite quand il a une vague par Kaoxbo parce qu'il est un peu cool, un sapin de Noël.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que j'ai fait n'importe quoi en termes vestimentaires. Je me suis lâché total. C'était génial. Ouais. J'avais une crête blonde. Il pouvait pas y avoir assez de couleurs dans ce que je portais.
C'est drôle parce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt en couleur.
Non, assez... mais je questionne beaucoup ça aussi. Ça fait partie de mes réflexions contemporaines.
Pourquoi
j'ai été quelqu'un d'aussi flamboyant et qu'à un moment, il y a eu un retour en arrière. Enfin, un retour en arrière, pas un retour en arrière, mais cet assagissement, en fait. Ça fait vraiment partie des sujets actuels de ma réflexion.
Ensuite, vous allez aller à Paris, vous allez travailler d'abord pour Luc Besson, puis pour des boîtes de production. Vous travaillez dans l'animation et dans la post-production. Qu'est-ce que vous faites à l'époque?
Ouais, je fais de la 3D. Alors, la 3D, c'est-à-dire, j'imagine que les gens savent ce que c'est, mais dans l'idée des effets spéciaux, quoi. Mais, alors, je travaille pas directement pour Luc Besson, mais je fais la passerelle entre Europa et une boîte de jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo sont là. Et je bosse sur la modélisation de décors, un truc assez technique et assez créatif à la fois. J'aime assez ce métier, mais j'aime pas le carcan du salariat. Je me rends compte très vite que ça va pas être fait pour moi.
Vous allez réaliser des clips ensuite, c'est comme ça qu'on va entendre d'abord parler de vous, enfin au niveau d'un grand public. Il va y avoir le clip de Yael en 2009, et puis Moby, Katy Perry, Lana Del Rey en 2010 et 2011, ou Born to Die et puis Blue Jean. Votre rapport à l'image en tant que clipper, à ce moment-là, vous le définissez comment?
J'ai eu un producteur qui m'a dit, en début de ma carrière, un truc qui m'est resté tout le temps, il m'a dit, en tant qu'artiste, en tant que réalisateur, tu es ce que tu fais. C'est-à-dire que tu peux te raconter tout ce que tu veux sur ce que tu es capable de faire, sur ton esthétique, etc. Au final, c'est tes films qui parlent pour toi. C'est ce que tu as fait qui définit qui tu es. J'ai pas compris tout de suite ce que ça voulait dire. Je l'ai appris par le temps. Je crois que c'était aussi une manière de me dire qu'il fallait être humble et qu'on n'était rien tant qu'on n'avait pas prouvé en tant qu'artiste. Je pense que si je dois définir mon esthétique, elle est ce que j'ai fait. Donc oui, c'est des films qui ont une approche assez littérale d'une certaine idée de beauté, assez classique. Sont des films qui parlent des rapports d'échelle. Ça, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était consistant dans mon travail. Je pense que c'est un absolu besoin d'émouvoir les gens, à tout prix. Quelle que soit l'émotion, hein. Je pense que c'est de la colère, de l'émotion, de la nostalgie, de la violence, de la beauté. Tout ça sont des émotions que j'ai envie de faire passer avec mon travail. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est nouveau, qui vient de plus en plus, c'est que j'ai envie d'écœurer les gens. J'ai envie de les... dans le sens canadien du terme, presque.
C'est-à-dire ?
Les Canadiens utilisent le mot écœurer presque de manière plus littérale, qui est belle, c'est-à-dire que ça les touche en plein cœur.
Un artiste, il se raconte par ce qu'il fait, comme vous le disiez. Il se raconte aussi par les collaborations qu'il initie ou qu'il y participe. Par exemple, je pense pour vous à Lana Del Rey ou Rihanna, qui sont deux figures, il me semble, assez importantes. Est-ce que c'est deux personnalités qui racontent quelque chose de votre goût?
Oui et non, parce que c'est pas moi qui choisis, c'est elles. C'est elles qui sont en puissance. C'est elles qui viennent me voir. C'est pas moi qui appelle Rihanna et qui dit « vas-y, travaille pour moi ». C'est elles qui m'appellent. Donc mon goût, c'est plutôt elle qui influence mon goût. Je suis pas l'artiste quand je travaille pour ces figures-là. Quand je suis réalisateur, je suis au service de gens et j'ai tendance à aller au contraire vers des figures fortes ou en tout cas accepter les demandes de figures fortes parce que j'aime bien me faire un peu balarguer. J'aime bien qu'on m'emmène en zone inconnue. D'ailleurs, c'est souvent des femmes parce que
qui vous emmènent ailleurs, quoi.
Ouais, c'est souvent les femmes qui m'emmènent ailleurs.
Ah oui, pourquoi?
Je saurais pas l'expliquer.
Alors, il y a Woodkid, réalisateur, et puis il y a Woodkid aussi, musicien, à la même époque, justement, en 2011, vous sortez votre premier single qui s'appelle Iron, à l'époque, qui est assorti d'un clip qui est très remarqué, à l'époque, un peu épique, en noir et blanc, et qui va préfigurer un petit peu l'univers de votre premier album, The Golden Age, qui, lui, va sortir 2 ans plus tard, en 2013, et qui va faire entrer, comme ça, l'univers de l'enfance. On a beaucoup dit une hyper-virilité, guerrière. En tout cas, c'est un disque qui était habité par des... La question des normes, la question de ce qu'on demande aux garçons, de comment vous êtes positionné par rapport à ça, cette thématique, cette relation que chacun entretient avec son propre genre, finalement, ça a été une dimension importante dans votre travail ?
Oui, je crois que derrière tout ça, il y a la question sous-jacente de est-ce que devenir adulte, c'est détruire son enfance ? Est-ce que l'enfance meurt ? Est-ce que l'enfance meurt ou est-ce qu'elle construit ? Est-ce qu'il faut la détruire ? Voilà, c'est un peu cette question-là. Est-ce qu'en fait, est-ce que je suis toujours juste une... Est-ce que je suis une excroissance de cet enfant que j'ai été ou est-ce que je dois tout effacer et devenir quelqu'un d'autre ? Parce que je crois que je suis vraiment un exemple de transfuge social. Pas à l'extrême d'une figure comme Édouard Louis, mon ami, par exemple, qui en parle très bien. Je vois que ma vie a changé. J'ai l'impression d'avoir 50 vies, déjà. En 1999, je fais avec ma maman mon premier voyage en avion. Ma maman, elle a 40 ans. C'est son premier voyage en avion. On arrive aux États-Unis, j'arrive à New York et je me dis un jour j'habiterai là. Moi, toute mon enfance, on allait au vidéoclub, on prenait Splash, j'allais voir les blockbusters aux États-Unis, j'écoutais la musique de Hans Zimmer. Mon enfance, elle a été construite par ce rêve-là. Mon transfuge, je l'ai fait autour de ça. Aller prendre l'avion, aller aux États-Unis, c'est un truc, quand je suis gamin, c'est...
C'est un rêve.
Ouais, c'est un truc ultime, c'est le haut de la pyramide. J'ai tellement adoré les États-Unis. J'ai tellement aimé y vivre, j'ai l'impression d'être tellement, justement, extrait d'un milieu pour y arriver. Et je me rends compte à quel point j'ai aussi abandonné des trucs au profit d'un modèle que je me rends compte n'est pas le bon non plus. Puisque je me suis rendu compte que je l'ai fait aussi pour m'enfuir. Et là, en fait, on le voit tous. Il y a un truc du monde qui ne marche pas.
Et votre nouvel album, il parle de ça aussi.
Ouais, beaucoup.
Il parle beaucoup de ça.
Il parle de doute. Il parle de remise en question, qui est un truc aussi destructeur que positif. Et il parle de la destruction des grandes forces. Je crois que ça en fait partie. Cette puissance du monde capitaliste, américanisé, qui est un truc pour lequel j'ai autant d'amour et de haine à la fois. Comment je travaille avec ce doute ? Oui. Il y a un truc dont on n'a pas parlé dans l'idée du transfuge, c'est que moi je viens d'une famille de droite. Je viens d'une famille qui a aussi ses valeurs. Moi, je viens d'un monde qui est le monde dans lequel on a presque tous grandi. Et quand on est homme et qu'on va au conseil d'orientation, une des questions, c'est combien d'argent vous voulez faire ? Donc, forcément, il y a à l'intérieur de moi ce rapport aux machines, ce rapport au plus, ce rapport à l'idée que la croissance, c'est forcément quelque chose qu'on peut compter, qui est une série de chiffres, qui est comptabilisable, que ce soit un salaire... un nombre de vues, un nombre de likes, un nombre de commentaires, un nombre de ventes de disques. C'est ça le baromètre du succès, c'est ça le baromètre de la croissance d'un point de vue individuel. Là, mon moment de vie, il est sur la redéfinition de cette idée de croissance et sur la redéfinition de cette idée de succès.
Et votre nouvel album qui s'appelle S16, enfin c'est le chiffre du soufre qu'il faut entendre à tous les sens du terme, je pense autant comme la matière en physique que le sentiment, c'est un disque qui pose justement ces questions, en posant la question de la vulnérabilité et de peut-être l'incertitude de la période dans laquelle on vit.
Oui, ça parle de vulnérabilité, mais ça parle aussi de fascination. Et je pense que c'est là que l'idée du soufre est importante pour moi. J'ai utilisé le soufre parce que c'est un élément périodique qui est très... ambigu. Il est fondateur de vie et en même temps, en alchimie, c'est le symbole du diable. C'est un élément qui est très ambivalent. Et je crois que cet album, il parle de ces ambiguïtés-là. Il parle d'un questionnement assez contemporain pour moi qui est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'utopie et de dystopie dans ces grandes formes, dans ces grandes forces qui semblent gouverner notre monde ? Pourquoi les grands challenges sont autant fascination que répulsion ? Pourquoi Trump est aussi dégoûtant que fascinant? J'ai l'impression que le monde n'est qu'addiction. C'est le paradoxe de poster des articles sur la nocivité et la dangerosité des réseaux sociaux sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a ces rapports d'amour, haine, d'addiction, dystopie, utopie qui moi me fascinent. Mon album, il parle de ça. Ouais. C'est pas un album que de lumière, c'est aussi un album de noirceur, ça c'est sûr.
M, le magazine du monde présente le goût de M.
Là, on est dans la cuisine, je suis en train de faire les pâtes.
Avec une vraie machine à pâtes.
Une vraie machine à pâtes, là j'ai fait la pâte. Là, je suis en train de la travailler. J'ai fait comme des... Vous aimez les ravioles ? Je fais comme des ravioles.
Vous cuisinez beaucoup ?
Tout le temps.
Ah
tout
ouais.
le temps, c'est un peu ma passion secrète un peu. C'est un peu ce qui me permet de me concentrer, de penser à autre chose. On va faire des tortellini. On va trouver le bon dernier. Ma grand-mère cuisinait beaucoup, ma mère aussi. Et puis comme j'adore manger en plus, je pense que c'est un peu nécessaire quand on aime cuisiner. Je mets la pâte au milieu, je plie, je recolle. Bon, ça c'est un peu un gros trick parce que ça plaît toujours à tout le monde et puis tout le monde aime les tortellini. Ouais.
Là on est chez vous. Quel rapport vous entretenez avec les objets ? C'est important les objets qu'il y a autour de vous ?
Oui, c'est que des objets que j'aime.
Oui, on dirait qu'ils sont très soigneusement choisis.
Ouais, je suis pas si matérialiste que ça dans le sens où j'accumule pas les choses pour les accumuler. Je garde que les choses qui ont soit une forte valeur émotionnelle pour moi, soit des objets dont j'admire la qualité artistique. Soit des photos, soit des objets de design. Parce que je suis aussi passionné de design. Bah là, il y a pas mal de Gino Sarfati, par exemple, qui est un designer italien, qui est quelqu'un dont j'admire les lignes. L'idéologie, on parle de luminaire en fait. Il va y avoir pas mal d'Ettore Sottsass, mais un certain Ettore Sottsass. Là, il y a une lampe, là, il y a une chaise. Mmh. Sottsass, quand il est un tout petit peu plus minimal. Beaucoup de George Nelson. Alors là, on peut parler encore des États-Unis. Mais voilà, là, c'est des canapés de George Nelson. La table sur laquelle on fait cette interview, une table de George Nelson. J'aime bien l'idée que les objets ne soient pas forcément des objets d'un espèce de fast market ou de fast fashion. Et que j'adore l'idée du vintage, ou d'un certain vintage. J'aime l'idée que les objets soient réutilisés, qu'ils aient des secondes vies. Ouais, j'aime bien cette idée, des objets comme des témoins un peu.
Et aux vêtements, vous avez quel rapport ? Vous en parliez un petit peu tout à l'heure en disant que vous aviez eu une époque flamboyante pendant vos études à Lyon. Aujourd'hui, c'est important pour vous, la façon dont vous êtes habillé ou pas ?
Oui. Déjà parce que il faut que j'optimise. Hein. J'ai un gros boulot d'optimisation. Hein. J'ai pas eu toutes les cartes, j'ai pas eu toutes les grandes cartes à la naissance. Donc je suis petit, je suis chauve, je suis poilu, j'ai pas les cartes fastoche à gérer. Maintenant je les adore. Hein. J'adore mon corps. J'adore comme je suis. J'ai appris à m'aimer beaucoup. Mais ça demande aussi un peu d'optimisation. Donc je mets des petites talonnettes dans mes bottes. Je mets ma casquette. Je remonte ma taille, je serre ma taille, je sors les épaules. Ça, j'ai appris beaucoup de ma collaboration avec Nicolas Gesquer. Et Florent, qui travaille avec lui, qui est un ami très proche.
Qui est directeur artistique de Louis Vuitton.
Voilà. Et on a appris beaucoup à regarder mon corps. Parce qu'il m'habille aussi. Donc, on s'est dit, comment on peut optimiser ça? Comment on peut rendre ça? Comment est-ce que je peux m'aimer encore plus?
Vous avez dit à plusieurs reprises que le beau, c'était quelque chose qui était important pour vous. Que ça pouvait être un peu votre démon. Et que vous en étiez toujours à déconstruire des codes de la beauté classique. Enfin, que ça, c'était difficile de s'en débarrasser. C'est toujours le cas ?
Ouais. Oui, parce qu'en fait, pour parler de ces forces ambivalentes, la beauté en est une. C'est-à-dire qu'elle est dangereuse comme elle est fascinante. Et surtout, c'est une notion qui évolue tout le temps. Quand Demna Gvasalia arrive chez Balenciaga, avec l'héritage de vêtements, il met un énorme coup de pied dans la fourmilière. Il dit, mais si de là où je viens, c'est tout ce qu'on a considéré comme moche, est-ce que du coup c'est beau ? Si c'est un jogging et si c'est une parka trop large, quand Lars von Trier dit « Moi la beauté c'est ce qui est vrai et je vais aller chercher ce qui est le plus vrai » et du moment où j'éditorialise, du moment où je mets en musique, du moment où j'étalonne, je m'éloigne de la vérité, donc d'une forme de beauté. Tous ces gens-là qui en fait travaillent à redéfinir le monde de la beauté, c'est des maîtres et c'est des ennemis à la fois. C'est-à-dire que c'est... Parce que moi, ma définition de la beauté, c'est la peinture classique, c'est l'opéra dans sa forme classique, c'est peut-être des choses qui ont aussi à voir quand je suis jeune et que je n'ai pas accès à ça, des choses d'une... on va dire d'une classe supérieure, en tout cas d'une idée
d'une autre classe sociale.
D'une autre classe sociale. Et en fait, je pense qu'avec le temps, je commence à, parce que j'ai eu accès à ça, maintenant je suis prêt à le déconstruire. Avant, quand il y a quelque chose que je me dis, ah non, ça c'est moche, en fait, je m'y attarde un tout petit peu plus longtemps. Je me dis, attends, pourquoi je trouve ça moche? Et est-ce que c'est vraiment moche? Est-ce que tu trouves ça moche parce que simplement techniquement c'est pas abouti ou parce qu'en fait, ça fait résonner un truc chez toi qui joue à domicile, qui joue vraiment à domicile et que t'as envie de démolir et que tu prétends ne pas être.
Donc vous avez appris à vous méfier de votre réaction première pour prendre le temps de la déconstruire.
Pour identifier surtout pourquoi est-ce que mon instinct primaire me fait dire que quelque chose est moche. L'idée du moche, je m'y intéresse de plus en plus.
Et est-ce que cette notion de goût, puisque c'est un peu notre fil rouge, est-ce qu'elle est importante dans votre vie? Je veux dire, est-ce que par exemple vos amis, vous diriez que c'est des gens qui ont du goût?
Ah oui. Ça, c'est sûr. J'essaie de jamais m'entourer de gens qui... Enfin, c'est pas comme si je choisissais de qui je m'entourais. Mais il se trouve que, oui, j'ai des gens qui ont des goûts divers. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Mais c'est des gens qui ont un goût. Enfin, du coup, en tout cas, qui formulent...
Qui ont une affirmation.
Une affirmation d'un goût.
Et est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût?
Non, mais c'est aussi que je suis peu tombé amoureux. Donc, en termes de statistiques... Je voudrais plutôt me poser la question, est-ce que je pourrais? J'aimerais vous répondre que oui, mais je crois que non.
Oui, vous voyez que c'est important quand même.
Ça ne veut pas dire qu'il faudrait que je tombe amoureux de quelqu'un qui a le même goût que moi, mais de quelqu'un qui affirme une position sur un goût et que ça me fascine et que j'apprenne quelque chose de ça. Le goût, c'est la passion aussi. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'est pas passionné par quelque chose. C'est vrai que je peux être, par exemple, très attristé de fréquenter quelqu'un qui n'a aucun goût pour la nourriture, par exemple.
Ça, c'est un goût qui est très important pour vous?
Ouais, parce que c'est un véhicule social fort, le dîner, la nourriture, c'est un...
Un moment où on se retrouve?
Ouais, surtout en ce moment, c'est quelque chose qui est d'autant plus important pour moi.
Vous faites beaucoup de dîners ici? C'est
beaucoup.
Une grande table, on
ouais,
voit...
c'est une grande table, on fait
recevez,
des dîners à 12, 14, je fais souvent. Je fais souvent et je fais même avec des gens que je connais pas bien. Mais des gens que j'admire ou des gens que...
Ça vous permet de les rencontrer.
Que j'aime. Ouais, et de les faire se rencontrer. C'est pas que moi.
Ouais.
D'ailleurs, souvent, moi, je suis plus en cuisine qu'à table. C'est plutôt les gens qui se rencontrent autour de mes dîners que moi qui les rencontre. Ça, oui, c'est un truc que je fais beaucoup et c'est un truc que je fais sans réseaux sociaux. Les gens prennent pas de photos. Justement pour que ça ait vraiment son rôle initial qui est de bien manger, de se bourrer un peu la gueule et de parler de tout et de rien sans frontières, sans limites, sans filtre, quoi.
Il y a un autre goût qui m'intéresse chez vous. C'est un goût que vous avez avoué pour le mensonge, la mythomanie.
Oui, ça, c'était un problème quand j'étais gamin, déjà. Ça comptait beaucoup de bobards. Mes parents m'ont mis sur une scène de théâtre et puis ça a tout changé. Parce que je me suis rendu compte que mon goût pour le mensonge n'était pas un goût pour le mensonge. Il n'était pas de ne pas dire la vérité. Il était de dire des mensonges. Il était de dire des histoires.
De la fiction, alors.
Exactement. Et je crois qu'en fait, c'est simplement qu'il y avait un truc qui poussait très fort. Il fallait que je raconte des histoires. Il fallait que je dise des choses. Et je pense que, d'ailleurs, dans l'idée de la beauté, dans l'idée du goût, il y a ça aussi. Il y a pour moi une image de bon goût, une image qui a du sens et une image qui raconte une histoire.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Sullivan Clabot, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du Monde. Je vous rappelle le titre de l'album de Woodkid, S16, et j'en profite pour vous annoncer un changement concernant ce podcast. À partir du prochain épisode, il faudra en effet être abonné au Monde pour pouvoir écouter Le Goût de M. Si ce n'est pas déjà le cas, rendez-vous sur la page abo.lemonde.fr/goût de M. Vous bénéficierez d'une réduction de moins 50% la première année si vous souscrivez à la formule d'abonnement intégrale à partager avec la personne de votre choix. On se retrouve très bientôt pour un autre invité, un autre goût.
Le goût de M.